Michael Ponge, comme chaque jour de la semaine, présente maintenant le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10 à Port-au-Prince. La démission du gouvernement et un nouveau Premier ministre en Haïti pour s'attaquer au fléau de l'insécurité. Promesse du président Moïse, on décrypte avec notre invité du jour. Le pire scénario possible, les Péruviens médusés face à l'affiche du second tour de leur présidentielle, on sera à Lima. Et puis le journal de l'Outre-mer dans une quinzaine de minutes, Benoît Ferrand alerte à la pollution de l'air en Martinique.
Une pollution qui ne serait pas due, pour l'instant en tout cas, aux cendres provenant de l'éruption volcanique sur l'île voisine de Saint-Vincent.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous. Exit Joseph Jout, 3 jours après l'enlèvement de 12 personnes, dont 7 religieux en Haïti. Le Premier ministre a présenté cette nuit sa démission au président qui a aussitôt nommé comme chef de gouvernement intérimaire Claude Joseph, qui était jusque-là aux affaires étrangères. Pour évoquer tous ces derniers développements en Haïti avec nous, Frédéric Thomas, docteur en sciences politiques au CETRI, le centre tricontinental basé en Belgique. Bonjour.
Bonjour.
Et on s'excuse par avance pour nos auditeurs avec ce léger décalage entre nos deux voix. Frédéric Thomas, le président Moïse, a précisé que ce changement de Premier ministre visait à s'attaquer en particulier au problème de l'insécurité. Comment appréciez-vous une telle annonce?
Mais comme les précédentes, je pense que c'est un effet d'annonce pour essayer de montrer qu'il est toujours aux commandes. Mais ce sera le 6e Premier ministre en 2 ans. C'est comme les annonces de commission, nouvelle commission, des états d'urgence décrétés sur certains territoires. C'est de la poudre aux yeux qui est destinée principalement à l'international pour montrer qu'il entend les préoccupations et de l'international et de la population et qu'il agit. Mais dans les faits, ça ne changera rien.
Un message à l'international peut-être adressé à la France après l'enlèvement de religieux français ce week-end?
Oui, bien sûr, c'est un message adressé à la France en priorité, mais il faut aussi le lire, à mon sens, comme un message adressé à l'international suite au tweet de la BINU qui met en cause le processus peu participatif, transparent et inclusif du référendum constitutionnel.
Le bureau des Nations Unies pour Haïti, on va revenir sur ce changement de ton de la part de cet organe. Vous nous dites, Frédéric Thomas, un effet d'annonce après plusieurs mesures aussi qui ont été annoncées en mars. Par exemple, le pouvoir avait décrété l'état d'urgence dans certains quartiers de la capitale, mais aussi en province, pour restaurer l'autorité de l'État face à cette insécurité et aux gangs. Là encore, selon vous, ce n'était que de l'affichage?
Oui, je pense qu'il faut revenir en amont à l'élocution du président devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 février dernier, où il annonçait que l'État haïtien avait démantelé 64 gangs armés sur 102. Parmi ces gangs prétendument démantelés, le gang des 400 Mawozo qu'on suppose avoir enlevé les deux religieux français. Et il affirmait toujours dans cette même réunion que le nombre de kidnappings avait considérablement baissé. Donc on voit qu'il y a un décalage complet entre la réalité et les discours du président.
La réalité, ce sont ces gangs qui pullulent, multiplient les enlèvements, on le disait, donc des civils, mais aussi ce week-end, des religieux. C'est le signe que ces organisations criminelles ne reculent devant rien?
Oui, malheureusement, c'est le signe d'une généralisation de la violence, d'une radicalisation de cette violence, que même les derniers espaces qui étaient relativement préservés jusqu'à présent, comme les religieux et les étrangers, cèdent, et que maintenant, véritablement, tout le monde en Haïti est susceptible d'être victime d'un enlèvement.
Parce que ces gangs criminels jouissent d'un sentiment d'impunité, est-ce que c'est votre avis?
Plus que d'un sentiment, d'une réelle impunité. Donc on sait qu'ils contrôlent les territoires, les différents quartiers populaires, Village de Dieu, Martissant, Croix des Bouquets, dans le cas des Français enlevés, que la police ne va pas intervenir.
Frédéric Thomas, qui est avec nous en ligne de Belgique pour évoquer la situation en Haïti. La ligne, semble-t-il, a été interrompue.
Là où sont enlevées les personnes enlevées, elles ne seront jamais... enfin, les gangs ne sont pas mis en danger par des interventions policières, que la population est là, voit et reste complice malgré elle de ces enlèvements du fait du contrôle de ces territoires par des gangs armés.
Le rôle de la police, vous dites, qui n'est pas efficace et qui en plus peut effectivement laisser ces gangs parce qu'il y a des... je ne trouve pas le mot, mais vous allez me reprendre. Il y a une certaine entente, c'est ça que vous nous dites ?
Oui, non seulement il y a un problème de capacité de cette police de répondre aux agissements de ces gangs, mais il y a aussi une complicité. Il y a des mises en cause régulières d'alliances de liens entre les gangs et la police, et une défiance généralisée de la population envers cette police qui renforce encore un peu plus l'impunité de ces bandes armées.
Et dans ce contexte donc sécuritaire, il y a aussi le contexte politique, le blocage depuis le 7 février, les oppositions qui ne considèrent plus Jovenel Moïse comme président légitime. Lui continue à pousser son projet politique, à savoir un référendum constitutionnel au mois de juin, des élections générales à la fin de l'année. Comment interprétez-vous cela ? Frédéric Thomas, en ligne avec nous.
Allô ?
On vous entend, Frédéric Thomas, je vous en prie.
Ah, voilà. Donc, j'ai pas saisi toute la question. Je pense que vous parlez de la crise politique. Je pense que
Et le président qui pousse son agenda, à savoir le référendum constitutionnel au mois de juin.
Oui, mais je pense que cette crise politique, malheureusement, elle alimente la crise sécuritaire. Il pousse son agenda qui était jusqu'à présent soutenu par l'international. Avec le tweet récent de la BINU hier, il y a une remise en question de ce processus, mais c'est une prise en compte tardive et partielle de ce que les Haïtiennes et Haïtiens disent depuis des mois, à savoir que ce référendum constitutionnel n'est ni faisable ni légitime.
La communauté internationale, donc, outre ce tweet hier soir, allait jusque-là dans le sens du président Moïse, en poussant à l'organisation de ces scrutins. Est-ce qu'elle doit changer de stratégie ? Et si oui, comment ?
Ah, bien sûr qu'elle doit changer de stratégie, parce que je pense que la situation actuelle, c'est le marqueur d'un échec du président Jovenel Moïse, mais aussi c'est le marqueur d'un échec de la politique internationale, de cette politique poursuivie non seulement ces derniers mois, mais ces dernières années. Ce qu'elle doit faire, c'est véritablement se mettre à l'écoute, de changer d'interlocuteur, de se mettre à l'écoute des organisations sociales, syndicats, mouvements paysans, organisations de femmes, mouvements de jeunes, écouter ce qui est demandé, ce qui est les préoccupations de ces groupes, et assurer une véritable transition en ne demandant pas encore et toujours aux principaux responsables de la situation catastrophique actuelle de résoudre les problèmes. Jovenel Moïse participe du problème et pas de la solution. La revendication majeure qui ressort des organisations de la société civile haïtienne, c'est une transition de rupture. Et donc le rôle de la communauté internationale, c'est de permettre au mieux, de faciliter au mieux cette transition de rupture.
Un mot aussi du groupe Religion pour la paix qui devait entreprendre justement une médiation. Il s'est retiré après les enlèvements du week-end. Cela laisse peu d'espoir.
Mais tout à fait. Mais de toute façon, le processus électoral actuel est contesté très largement. Le gouvernement n'a pas la crédibilité, donc. Il cherche toujours des solutions de seconde main en appelant à tel ou tel interlocuteur pour essayer de créer un espace de dialogue et de discussion, mais sur un terreau qui est foncièrement vicié, à savoir le gouvernement n'est pas crédible pour assurer ces élections, elles seront frauduleuses et les Haïtiens et Haïtiennes n'en veulent pas, parce que c'est une manière de reproduire le pouvoir en place et les crises à répétition. Or, ce que demande la population, c'est qu'on sorte par le haut de cette crise en assurant une refondation, une réforme de l'ensemble de l'espace public et des politiques publiques en Haïti.
Ce qui ne va pas du tout dans le sens du tweet hier du président Jovenel Moïse quand il annonçait donc ce changement de Premier ministre. Frédéric Thomas du CETRI, spécialiste d'Haïti, merci pour votre éclairage. Nos excuses pour cette communication un petit peu compliquée. Il est 9h20 à Port-au-Prince. La plus longue guerre des États-Unis touche à sa fin, nous dit cette journaliste de CBS. C'est l'info attendue ce soir. Le président Biden annoncera le retrait total des troupes américaines d'Afghanistan pour le 11 septembre, 20 ans tout juste après les attentats du World Trade Center. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
La presse bien sûr commente abondamment.
Oui, pour le Washington Post, le président Joe Biden veut remettre les compteurs de son agenda international à zéro. Il estime, d'après le journal, que la présence américaine dans ce pays l'empêche de s'attaquer à d'autres défis dans le monde, les défis de 2021 comme la menace chinoise, le changement climatique, la pandémie du Covid-19 et même la menace terroriste dont la nature a beaucoup changé, selon le journal. Et d'après le New York Times, le président a fait fi des recommandations de ses conseillers militaires qui favorisaient une prolongation de la présence des troupes sur place. Leur crainte, d'après le quotidien, c'est que la fin de l'intervention américaine, après 20 ans, vous l'avez dit, ne fasse ressurgir la menace terroriste.
Et on reviendra bien sûr demain sur l'allocution de Joe Biden. Au Mexique, arrive un homme politique et privé de candidature au poste de gouverneur dans l'état de Guerrero.
Oui, c'est fait la une de toute la presse mexicaine aujourd'hui. Il s'agit de Félix Salgado du parti Morena. C'est la formation politique du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Les autorités électorales ont définitivement exclu ce candidat pour des irrégularités fiscales. C'est le titre du journal El Universal. En fait, il n'a pas présenté ses comptes de campagne et cette décision de l'Institut national électoral a provoqué, Michael, un véritable tollé au sein du parti. Il a été durement critiqué, y compris par le président mexicain lui-même, qui n'a pas voulu lâcher Félix Salgado malgré les accusations qui pèsent contre lui. Il faut savoir que l'homme politique est aussi accusé d'agression sexuelle par deux femmes.
Ce candidat exclu, qui a réagi en menaçant l'autorité électorale.
Oui, exactement. Le temps de cette institution est compté, a-t-il déclaré. Des propos cités en une par Milenio. Il y a 2 jours, le président mexicain avait même accusé l'INE d'être au service des forces antidémocratiques. En tout cas, Michael, l'opposition de l'État de Guerrero, dont Félix Salgado voulait briguer la présidence, se félicite de l'exclusion du candidat, avec parfois des commentaires très imaginés. Après, ainsi, une députée du parti PAN a par exemple tweeté « Adios en Valentín ». Tenado Torito, ce qu'on pourrait traduire par adieu petit taureau machiste plein d'orgueil et sans vergogne. Vous voyez, en français c'est beaucoup plus long, des propos qui font en tout cas le gros titre du journal El Universal.
Ces élections au Mexique prévues le 6 juin, à la même date que le second tour de la présidentielle au Pérou, on en parlait hier, il opposera le candidat de la gauche radicale à l'héritière politique, fille de l'ancien président Keiko Fujimori. Un choix radical face auquel les Péruviens sont consternés et surtout divisés. À Lima, Viloen Munoz-Boileau.
Dans les rues de la capitale, nombreux sont les Péruviens qui parlent d'un second tour entre la peste et le choléra. Pour Hugo Velarde, communicant à Miraflores, un quartier résidentiel de Lima, c'est le pire scénario qui soit.
Ce sont deux options tout aussi catastrophiques. Fujimori représente la pire corruption au Pérou. Et Castillo, avec son plan économique communiste, veut nous faire reculer d'au moins 2 siècles. Donc je ne peux voter pour aucun des deux.
Même si le total des voix rassemblées par les partis de droite rend une victoire de Keiko Fujimori a priori plus plausible, rien n'est joué tant les deux candidats suscitent le rejet d'une partie de la population. D'après des sondages réalisés avant le premier tour, 70% des Péruviens affirment qu'ils ne voteront jamais pour Keiko Fujimori, à l'image d'Eli Garrido, chauffeur de taxi à Lima.
Je voterai toujours contre elle après que son père a fait à notre pays. Et elle fait l'objet d'une enquête pour corruption. Et si la justice la condamne, on va se retrouver avec un président en prison. Je préfère 1000 fois Castillo à Keiko.
Mais le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, suscite lui aussi une grande méfiance. Elias, étudiant en marketing, exclut d'ailleurs de voter pour lui.
Je vais voter pour Keiko Fujimori parce que c'est une droite qu'on connaît, alors que l'autre option, c'est la gauche radicale et j'ai peur qu'on termine comme le Venezuela ou Cuba.
Comme lui, de nombreux Péruviens associent la gauche au chavisme ou encore rapport au terrorisme du Sentier Lumineux qui a causé des milliers de morts dans les années 80 au Pérou. Alors que la campagne pour le deuxième tour n'a pas encore débuté, la société péruvienne semble donc déjà très divisée, ce qui rend l'issue du second tour plus qu'incertaine. Vilouen Munoz-Boileau, Lima, RFI.
Avec en toile de fond, bien sûr, la pandémie de Covid. Le Pérou est l'un des pays les plus touchés, mais loin toujours, bien sûr, derrière le Brésil qui bat des records et se retrouve de plus en plus isolé. La France a décidé de suspendre ses vols en provenance et en direction du Brésil à Rio.
Oui, selon la Folha de São Paulo, cette décision aura un impact limité sur le commerce entre les deux pays, car, comme le rappelle le journal Michael, les liaisons aériennes entre la France et le Brésil ont déjà été très, très réduites depuis le début de la pandémie. Le problème se pose plutôt sur le long terme, explique Folha de São Paulo. Si la suspension des vols perdure, cela pourrait avoir des conséquences néfastes, non seulement pour le tourisme, mais aussi de manière générale sur l'image du Brésil dans le monde, un pays qui n'arrive pas à freiner la propagation de la pandémie.
Alors que plus de la moitié des Brésiliens qui se trouvent en soins intensifs désormais ont moins de 40 ans. La suspension des vols est prévue au moins pour durer jusqu'au 19 avril. Merci beaucoup, Arim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour.
Une procédure d'alerte à la pollution de l'air a été lancée hier en Martinique.
La qualité de l'air s'est en effet dégradée sur l'île des Antilles, certains signalant même des dépôts de poussière sur les pare-brises des voitures. Mais cela n'aurait rien à voir, pour l'instant en tout cas, avec les cendres du volcan La Soufrière, actuellement en éruption sur l'île voisine de Saint-Vincent. Gaëlle Gratalou est la responsable qualité de l'air à l'organisme Madininaire. Elle est au micro d'Audrey Govinde.
Donc actuellement, l'épisode de pollution et l'alerte qui a été activée est lié vraiment à cet épisode de brume de sable. À côté, en effet, Madinaire surveille et est vigilant par rapport à l'impact que peut avoir l'éruption de la Soufrière sur la qualité de l'air. Donc à ce jour, on n'a pas de relevé de concentration supérieure en particules fines dues à l'éruption, mais il peut y avoir des changements au cours des prochains jours, dus au changement de vent par exemple, ou d'altitude de projection de ces cendres, qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'air. Nous, en termes de concentration sur les particules, en tout cas que l'on mesure, qui sont des particules très fines, donc inférieures à l'épaisseur d'un cheveu, donc c'est vraiment des particules très très fines, nous on n'a pas remarqué d'incidence sur la qualité de l'air. Mais il peut y avoir en effet des dépôts, donc ce sont des dépôts avec des particules un peu plus grossières.
Direction maintenant la Guadeloupe, où les conséquences de la grève dans les collectivités locales commencent vraiment maintenant à se faire sentir. Une grève à l'appel du syndicat UTC-UGTG qui dure depuis maintenant plus d'un mois et demi. À Pointe-à-Pitre, le reportage d'Eddie Golapkan.
Cette semaine que le mouvement dans les collectivités est engagé par la centrale syndicale et les conséquences sur l'activité économique se font terriblement sentir. François Pelcuet, président de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre.
Le problème aujourd'hui de ça, c'est qu'il y a une multitude de questions qui ne trouvent pas de réponse. Et donc pour un chef d'entreprise, pour un commerçant lambda, ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est très compliqué. Ne pas pouvoir avoir des réponses, c'est encore plus compliqué. Et voir une ville qui est désertée, hein. Quand bien même que les centres commerciaux étaient fermés, l'activité était relativement moyenne. Malgré tout, on n'a pas profité de ce rebond.
Pour la population, les problèmes s'accumulent également. Pour tout ce qui est des démarches administratives, par exemple, il faut le plus souvent faire mauvaise fortune, bon cœur. Corinne Bureau, habitante de Pointe-à-Pitre.
Ce matin encore, j'en discutais avec quelqu'un qui me disait qu'elle avait des soucis pour avoir un extrait d'acte de naissance et qu'il y avait juste l'enregistrement de décès qui pouvait être fait, être possible. Mais personnellement, je n'ai pas eu de démarche à faire à l'heure qu'il est, mais bon, je m'adapte.
Par contre, depuis que le CIVAD a repris ses rotations à raison de 3 fois par semaine, les rues de la ville ont été largement débarrassées des tas d'immondices qui s'amoncelaient au sol.
Affaire à suivre selon la formule consacrée. Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Bonne journée à vous.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
RFI Pure Radio, notamment pour nous écouter et retrouver les podcasts de notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques qui était réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Très bonne journée à tous et on se retrouve demain.
RFI.